Hommage à Space Invader.
Commandant, les extraterrestres aux mandibules vertes foncent vers nous.
Quelle est leur progression?
Assez lente. Ils se déplacent en deux dimensions de gauche à droite.
Nom d'un tournevis.
Ils devraient atteindre la Terre dans deux minutes.
Sortez le tank numéro un. Nous allons suivre leur progression de gauche à droite, tout en les pilonnant avec le canon.
J'ai une meilleure idée. Pourquoi on n'irait pas s'installer dans un angle où ils ne pourraient pas nous atteindre, dans un endroit où on serait à l'abri de tout danger?
Écoute, tu as vu ça ici?
Votre badge de commandement?
C'est ça. Et ça veut dire quoi?
Que je dois obéir aux ordres sans poser de questions?
Exactement. Alors, allez, à l'attaque!
Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous allez continuer à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. 'Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time caught you out again. You spent your time in a little cubicle. In a cubicle.
À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes et bienvenue à votre édition hebdomadaire de ce magazine du monde ludique sur les ondes de CKIA, également sur Radio Anticosti et Radio, en fin de compte au territoire du Nord-Ouest, c'est Radio Taïga. Et je salue également François G. Couillard qui est avec moi, Vincent Langlois au micro.
Salut Vincent!
François, on est même écouté en France.
Oui, à Bordeaux, France.
Et on les salue également, on salue les amis français. Donc, c'est notre édition de la semaine du 2 novembre de Puissance Maximale. Et encore une fois, comme à l'habitude, nous n'allons pas vous décevoir. C'est une émission extrêmement chargée. Nous allons avoir en entrevue Martin Bouchard de Philosophia qui va nous parler de la Fiesta ludique qui s'en vient à Montréal la fin de semaine prochaine. Également,
la deuxième édition de l'événement.
Oui.
Sinon, on va avoir aussi le Hackfest, les gens du Hackfest, Michel Cuzin et Patrick Mathieu. C'est un festival, c'est comme une sorte d'événement qui célèbre le hacking, donc le piratage informatique.
Et Gabriel du NT2, on ira le rejoindre également par téléphone. Il nous parlera de web comic avec un peu d'actualité en plus qu'on va faire au cours de l'émission.
Et on va même avoir un tirage d'une arbalète de Coliseum Concept un peu plus tard.
Tout à fait. Et on débute, comme à l'habitude, en musique, François.
On va aller écouter une pièce de l'album de Passepartout. C'est comme des reprises. C'est Génération Passepartout que ça s'appelle, l'album. Alors, c'est une pièce de Madame Moustache. Et la pièce de Musax va venir un peu plus tard. Donc, vous êtes à puissance maximale.
Le petit printemps, tout vert, remplace l'hiver, tout blanc, c'est un moineau, tout gris, qui me l'a dit, oui, me l'a dit. Quand l'hiver fond, v'là le gazon, j'ai plus besoin de mes mitaines. Pas de glaçons sous le balcon. Le froid qui pique est parti. Youpi, 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 youpi. Le petit printemps, tout vert, tout
Puissance maximum.
De retour à puissance maximale et c'est le temps de l'actualité. Ces temps-ci, l'actualité, je vais vous dire franchement, qui, bon, moi, du côté jeux vidéo, il se passe pas grand-chose, à part les sorties de jeux. Et encore là, sorties de jeux, c'est très, très, très ordinaire. Pas grand-chose, je sais pas, du côté du jeu de plateau. C'est certain qu'on va en entendre parler un petit peu dans l'émission d'aujourd'hui, puisqu'on aura les gens de la Fiesta Ludique en entrevue sous peu. Eh bien, si vous êtes animateur de Doom, je sais pas si t'es animateur de Doom,
bien sûr,
François,
bien sûr.
Et que tu as un iPhone...
Non, malheureusement.
Tu n'as pas d'iPhone. Alors, il paraît qu'on peut maintenant jouer à Doom. On peut maintenant télécharger l'application de Doom sur iPhone.
Okay.
Sûrement une application qui sera très, très, très désirée des gens qui possèdent les iPhones. Moi, j'en ai pas et je n'irai pas en acheter un pour Doom non plus.
Doom, un jeu de tir à la première personne quand même culte, là.
Un précurseur dans le domaine, disons.
C'est tellement gros qu'il y a une version même en flash qu'on peut jouer sur Internet, donc...
disponible, donc ça vaut même pas la peine de l'avoir sur iPhone, finalement, je comprends bien. Tu viens de gâcher ma nouvelle.
Non, mais c'est pas... Non, mais j'imagine que pour faire une version petite comme ça, ça doit prendre une version spéciale.
Sûrement. Mm. Et Fallout 3 a été nommé jeu de l'année en fin de semaine au Joystick Awards.
Bon, bravo, bon choix.
Les Golden Joystick Awards, s'il vous plaît. Donc, 27e édition de ce festival. En fin de compte, c'est une soirée qui est intégrée au Festival des Jeux de Londres. Donc, c'est une nouvelle qui vient de la BBC. Et ça a été nommé jeu de l'année. Et dans la même soirée, on a remis des prix à différents jeux aussi vidéo, comme la série Call of Duty, qui en a reçu 3, quant à elle.
Oui, quand même.
Donc, celui du meilleur jeu multijoueur de l'année. Celui du jeu Nintendo de l'année pour World at War, qui était quand même très bien pour la Nintendo Wii. Et on a même le prochain Modern Warfare, celui qui sort dans une semaine, eh bien, il a reçu un prix également pour le meilleur jeu à prendre au sérieux. Donc, le vraiment prochain à voir, à regarder, qui sera sûrement excellent.
On vous le dit souvent, le jeu, c'est sérieux.
Et notez également que Guitar Hero World Tour, ça m'a fait rire un peu celui-là pour les prix, C'est mérité le prix de la meilleure trame sonore. On s'entend-tu que bon.
C'est fort.
Oui, Guitar Hero, c'est très bon. La trame sonore, ben la seule chose que c'est normalement, c'est des chansons connues. Alors, il y a pas grand travail de. Si je compare un jeu comme Oblivion, un jeu comme Morrowind à l'époque, tu sais, où il y a beaucoup d'orchestration, il y a pas de création. C'est justement, c'est seulement les tunes reprises des bands. Mais c'est quand même mérité le prix de la meilleure trame sonore.
Bon.
Tandis que Little Big Planet s'est mérité le prix du meilleur jeu familial, qui selon moi est vraiment très mérité. C'est un très bon jeu.
Il a déjà gagné beaucoup de prix, hein, ce jeu-là.
Oui, vraiment. Puis c'était très bien fait, super intéressant. Donc, c'était les nouvelles de la Golden Joystick Awards lors du Festival des Jeux de Londres. Et en terminant pour les nouvelles, on parle de sortie de jeu pour cette semaine. Alors, si vous possédez une PS3, une 360, une Wii, une DS ou une DSi, vous serez heureux d'apprendre que Lego Rock Band fait son apparition cette semaine. Lego Rock Band, eh oui, alors...
OK, pourquoi pas?
Ben oui, c'est certain que on quand on joue à Lego. Rock Band, on regarde certainement l'écran qui se passe en arrière, tu sais. Alors, les bonhommes en Lego...
C'est vraiment important.
C'est super important. Il y a Star Wars The Force Unleashed, qui est sorti, en fin de compte, depuis un petit bout de temps. Eh bien, on a fait une Ultimate Sith Edition. L'édition ultime Sith.
Eh
oui. Pour le PS3, la 360 et le PC. Pour également le PS3, la 360 et le PC cette semaine, Dragon Age Origins. Il y a Band Hero qui sorti un autre jeu de musique pour la PS3 360, la Wii, la DS et la DSi. Si vous avez une Wii et vous étiez triste de ne pas avoir un Need for Speed, le Nitro sort cette semaine également. Pour la Wii également, le Dance Dance Revolution Disney Groove avec les personnages de Disney. Et vous avez des consoles portables comme la PSP. Eh bien, Ghostbuster, qui est sorti il y a quelques mois, sera disponible pour vous cette semaine. Et Jak and Daxter, qui est un jeu super... connu au niveau des fans de PlayStation, eh bien, ce sera disponible également. Et si jamais vous vouliez changer votre PS3, eh bien, arrivera cette semaine sur nos tablettes le modèle à 250 gigs de disque dur. Donc, de la place en masse pour mettre des jeux, si ça vous intéresse, ça arrivera bientôt sur les tablettes. En fin de compte, ça devrait arriver cette semaine. Alors, ça fait le tour rapide de l'actualité du monde ludique, surtout du jeu vidéo. Pas grand-chose, comme je vous le disais. Mais on aura peut-être la chance de tester quelques jeux dont je vous ai parlé il y a quelques instants.
Dans les semaines qui viennent.
Eh oui!
Je te remercie beaucoup, Vincent. On va écouter maintenant une autre pièce musicale. Ça va être une pièce de Steve Normandin, qui est un auteur-compositeur de Québec. Et il va faire une pièce qui s'appelle « À côté de la traque ». Vous êtes à puissance maximale.
Je suis à côté de la traque, j'ai plus de tour dans mon sac. Quand vient l'heure des rappels, le public m'interpelle. Je voudrais bien m'en aller, mais je peux pas m'arrêter. J'ai dépensé mon heure depuis une demi-heure. Un couplet, un refrain, une step, un salut, ben une toute d'accordéon. Je recommence en voyant, je suis à côté de la traque. Mais quand je passe à l'attaque, je suis plein d'adrénaline. Dans ma tête se voisine des idées farfelues, malades, des saugrenues. J'ai le body qui toffe, mais je trouve pas la switch off. Je voudrais bien m'arrêter, puis laisser reposer ma mâchoire, ma langue finie, ma paire de babines. J'ai cherché dans tout mon répertoire une chanson transitoire. Une chanson exutoire, quelque chose qui aurait ce petit truc fantastique, inouï et magique de faire fuir le public, de le déconcerter, en plus de l'inciter à ne pas rester là. Je me suis dit pourquoi pas une chanson d'épouvante, pas chantable et crevante, paraît que c'est bien bavu, mais j'ai pas trouvé mieux, je suis à côté de la traque. C'est le coup de Jarnac, ce qui était une bonne idée vient de m'assassiner. Le public est pas mort, il en demande encore, il tripping sur sa chaise, la soirée va être mauvaise. Si je trouve le temps long à chanter ma chanson, lui n'a pas arrêté pour me chronométrer, je lui demande grâce. Quoi que je dise ou fasse, je me mets à genoux, je deviens complètement fou. Je m'arrache les cheveux, le public est odieux, un bourreau qu'il incarne. Il s'entête, il s'acharne. À me dire, Normandin, tu donnes pas tout ton pain. Tout au long de la tournée, où mets-tu ta fournée? Pendant ce temps, je pétris, je papote les mots en papillote qui balance et j'argote à 140 à l'heure sur un air à faire peur. Si j'ai tout mon refrain, j'ai pas trouvé les freins. Ma chanson est mariée, je me donne un mal de chien. Si ça continue, j'aurai trop mal au cul à jouer de l'accordéon. Avec mes deux moignons, j'en ai peine à chanter sans coller mes dentiers. Je suis à côté de la traque, je me dis du tac au tac, ça va beaucoup trop vite, maman, faire une clé, j'ai de la boue dans tout pète, je sais plus où la bête, donnez-moi la verre d'eau, mets trop boulot dodo. À côté de la traque, tu perds ta crise d'attaque. Les docteurs sont passés, faut pas sous-estimer. 5 tasses de café à l'heure du déjeuner, ce qui expliquerait le débit imparfait. Au lieu d'être un chanteur, je devrais être un cantor ou saisir le micro durant une course de chevaux. Ce qui est un défaut devient une qualité. Et sans faire de jeu de mots, je serais mieux payé. Si je faisais le calcul de tout ce que j'ai dit, les banquiers dans leur bulle viendraient me faire crédit. Oui, mais en attendant, je me farcis tout un trac ennuyeux et morbide. Je suis à côté de la traque, arrête ton semi mac. Je suis à côté de la traque, je m'arrête et je strac. Je suis à côté de la traque, je suis à côté de la traque, je suis à côté de la traque. Je suis à côté de la traque.
Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale.
Alors, l'ACFest est un rassemblement de hackers informatiques qui se réunissent pour mettre à l'épreuve et comparer leurs talents. Et pour nous en parler, on reçoit les organisateurs de l'événement, Michel Cousin et Patrick Mathieu. Bonjour, messieurs.
Salut.
Alors, dites-moi, là, est-ce que vous êtes des hackers vous-même?
Hacker, ça dépend comment est-ce que vous interprétez le mot hacker, là. Parce que hacker, souvent, il y a une espèce de mythe autour de ça qui fait que c'est tout du monde qui sont, disons, obscurs ou qui vont péter des affaires pour faire du mal.
Ah, c'est ça, un petit mythe négatif, hein, ou péjoratif, qu'on dirait.
Ouais,
mais c'est pas nécessairement rien que ça, si je comprends bien.
Exactement, c'est ça. Parce qu'en fait, si on parle de hacking, ça va être peut-être plus dans le sens d'essayer de comprendre quelque chose, de le décortiquer, voir comment ça marche. Fait qu'à quelque part, on peut même hacker un lave-vaisselle, donc, si on veut, juste voir comment est-ce qu'il marche. Là. C'est un petit peu ésotérique. Là. Fait que dans ce sens-là, apprendre comment les choses marchent, oui, on peut dire qu'on est des hackers dans ce sens-là, mais pas sur le côté obscur. Là.
C'est ça. Puis dans nos emplois, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment qu'on analyse, on regarde la sécurité des applications, des serveurs, de l'informatique en général.
OK, c'est votre job. Là. Vous faites ça comme une entreprise. Là, pour vous êtes des conseillers, dans le fond, en sécurité informatique.
En plein ça. Dans le fond, l'ACFest, nous, on le fait personnellement. C'est un projet commun avec Michel et Nicolas. Mais dans nos emplois réels, ça, on fait de la sécurité.
OK. Donc, sinon, c'est quoi vous... Quand vous êtes, par exemple, à l'extérieur de votre emploi, vous êtes à la maison ou vous êtes sur votre ordinateur, est-ce que vous pouvez faire un peu vous amuser, c'est-à-dire essayer de hacker des choses, des systèmes informatiques à l'extérieur du cadre de votre emploi?
Question piège.
Vous avez le droit de répondre. Personne n'écoute.
C'est bon.
La GRC, les ondes sont brouillées pour eux autres.
Oui, c'est bon. En fait, je dirais que oui, sauf que dans mon cas, c'est en circuit fermé, dans le sens que je vais le faire, mais pas sur des systèmes, disons, qui sont légitimes ou qui appartiennent à d'autres personnes. Fait qu'on se montre des labs à nous autres, puis on va essayer plutôt d'attaquer ces machines-là que les vraies machines, parce que sinon, là encore, on tomberait sur le côté obscur de la force.
Illégal.
Ouais. C'est ça, illégal. Puis ce qu'on veut faire, c'est, on parle de Hackfest, mais on veut quand même promouvoir la sécurité aussi, en plus de hacking, parce qu'on gagne notre vie avec la sécurité, fait qu'on est sur... la ligne est très mince, disons. Là.
C'est ça. Dans le fond, la Hackfest va amener le point que le hacking existe, l'illégalité, ça existe aussi. Fait qu'on démonte... Dans le fond, la sécurité, il faut qu'elle soit là parce que l'illégalité, elle existe quand même.
Donc, on va démystifier un peu ce que c'est le hacking.
Oui.
Et le Hackfest, en fin de semaine, là, on parle de conférences, on parle de concours. Même sur votre site, on parlait de possibilités d'emploi, de rencontrer des gens qui sont dans le milieu.
Oui.
Alors, pouvez-vous nous parler un peu de ce qui va se passer en fin de semaine?
Mm-hmm. En fait, le hacking est divisé en deux parties. La première partie, c'est des conférences de sécurité qui vont durer du matin jusqu'à environ l'heure du souper. Dans le soir, c'est vraiment les concours de hacking où est-ce qu'on va avoir trois tracks différentes, si on veut. À partir de là, les gens sont capables d'apprendre durant le jour, d'échanger, faire du réseautage. Puis le soir, c'est vraiment de montrer ce qu'ils savent faire. Questions comme talent, comme skills, qu'on va dire. Puis basé là-dessus, c'est sûr que toutes les firmes qui font de la sécurité à Québec, au Québec, puis même aussi à l'extérieur de ce cadre-là, peuvent venir faire un petit tour puis voir un peu c'est qui les nouveaux talents, vers où on s'en va, qui va hacker, donc qui a une capacité ou un potentiel à faire de la sécurité, puis de les ramener sur le côté non-obscur de la force avant qu'ils tombent du côté obscur, si on veut. Là.
Est-ce que vous étiez avant justement dans le côté obscur, puis vous avez été comme rattrapé par le business?
Non.
Pas moi, question piège.
Mais c'est ça, là. On parle justement de l'égalité. Vous, ce que vous faites, c'est vraiment dans le domaine de la légalité. Mais j'ai vu sur justement dans les conférences, parlons-en,
oui.
Il y en a une sur les lois et le hacking. Là. C'est-à-dire que, si je me souviens bien, la conférence...
Comment la loi s'applique aux hackers?
C'est ça. Quelles lois sont applicables aux hackers? Énormément moins que tu penses que ça s'appelle. C'est donné par Botrax.
Oui.
Alors, c'est quoi ça peut s'exposer justement à un hacker là, s'il fait des choses, s'il va sur des sites privés? Là?
Ça va dépendre des méfaits qu'il va faire s'il en fait. Il y a du monde qui se sont déjà fait arrêter, qui ont fait de la prison pour ça. Fait que ça peut aller jusque-là. C'est sûr que si quelqu'un va aller sur un site puis va explorer sans traverser la ligne, mais juste voir, par exemple, une erreur qui ressort sans l'exploiter, disons que c'est la limite. Ouais. Un peu dans ce qu'on fait aussi dans notre travail pour être capable de voir quelle faille il y a. Mais d'exploiter la faille, c'est là qu'il y a vraiment une ligne à pas franchir. Là.
Autrement dit, tu peux aller voir la liste des numéros de carte de crédit, mais si tu prends la liste et tu la mets sur ton ordinateur, t'en fais une copie, là, c'est là que c'est illégal.
Même cette partie-là est déjà illégale en tant que telle. Dans les exemples réels, juste pour mon emploi, moi, chaque jour, je veux dire, le soir, j'ai pas besoin de faire des trucs illégaux chez nous. Mon emploi, c'est vraiment de faire du hacking. Fait que La partie légale, c'est quand on accède aux données, qu'on voit les données qu'on n'est pas supposé de voir, ou le système, on peut l'exploiter, l'utiliser. Mais qu'est-ce qui est légal, comme il disait, c'est que si on trouve l'affaire, mais qu'on fait rien avec, on le sait qu'elle existe, mais on y touche pas. Si l'affaire nous donne des cartes de crédit, mais qu'on fait rien, qu'on voit pas les cartes de crédit, on est sans limite, là. C'est très limite.
OK.
Mais si on le fait sans autorisation aussi, des fois, il y a des lois qui peuvent te mettre un petit peu dans le mauvais pied.
Dites-moi, pour travailler dans le domaine, justement, là, est-ce que ça prend nécessairement un diplôme en informatique, soit un diplôme d'éducation collégiale ou un bac, ou quelqu'un qui travaille, qui a des capacités en informatique pour aussi bien se trouver un emploi?
J'irai avec le deuxième point. Ça prend pas nécessairement des études là à tout casser ou à tout finir. En fait, si quelqu'un va avoir, disons, un talent naturel, va le faire dans sa cave, va apprendre à la dure vraiment, sans nécessairement suivre un cours académique. C'est sûr, l'académique, c'est quelque chose qui va aider à comprendre les systèmes, comment c'est construit, ce qui va aider à hacker, si on veut, ou à travers l'informatique. Mais si quelqu'un, par exemple, décide de prendre un système lui-même, d'apprendre, puis d'être autodidacte, basé sur sa capacité, son talent, sa patience, l'acharnement, le temps qu'il va mettre, c'est une question de mettre du temps. À ce moment-là, il y a moyen là, de travailler là-dedans.
Non, je comprends bien, les compagnies se recherchent là, vraiment, c'est le talent pur, le talent brut là, pour
la passion.
Ouais, aussi la passion, j'imagine. Ouais.
Ben, ça dépend des compagnies aussi. Je connais plusieurs personnes qui ont même pas de secondaire puis qui font des choses que je comprends absolument rien. Je veux dire, moi, j'ai fait les études, j'ai pas étudié en sécurité, j'ai étudié en informatique. La sécurité, ça se donne plus ou moins dans les écoles. Il y a une dizaine de cours peut-être au Québec. Mais sinon, c'est vraiment, t'apprends par toi-même, tu vas dans le domaine, puis tu démontres que t'es capable.
Pis c'est peut-être un peu pourquoi on fait le Hackfest aussi, pour être capable de montrer aux gens ce que c'est, leur donner le goût de faire ça, puis de l'explorer, pour okay. qu'ils puissent voir que ça se donne pas nécessairement juste à l'école. Fait que venez faire un tour, regardez qu'est-ce que ça a l'air, qu'est-ce que les gars sont capables de faire. Puis en parlant avec le monde, on peut dire, regarde, moi j'ai jamais étudié en sécurité, mais je suis capable de faire telle affaire. Fait que ça peut aussi montrer la voie aux jeunes.
Ouais. Parce que le Hackfest, dans le fond, en soirée, il y a les concours, il y a un concours aussi de lockpicking qui est crocheté des serrures, il y a de la musique, il y a des rafraîchissements, pour bien dire. Puis dans le fond, c'est une soirée de réseautage, fait que vous allez là, vous parlez avec le monde, il n'y a aucun problème. Puis dans les journées, si les conférences vous intéressent, les sujets sont assez poussés, c'est très intéressant, puis... C'est fait pour tout le monde. Je veux dire, il y a des personnes okay. du gouvernement.
Même
tout
le monde, les matantes pour y aller.
Ben, c'est sûr, ils font un intérêt particulier. Okay. Mais je veux dire, les personnes qui sont dans le domaine plus ou moins informatique,
okay. vont trouver leur
au
compte.
Ministère, vont être capables de trouver leur compte.
Je pense que le hacker, trompez-moi si je me trompe, là, mais je pense que le hacker le plus populaire, du moins au Québec, ça doit être Mafia Boy.
Ça, c'est un sujet ouais. chaud.
OK, parce qu'il y a des rivalités, il y a des gens qui disent que moi, je suis plus hot que lui.
Ben, c'est pas vraiment ça. Ben, oui, il y a des rivalités, sauf qu'il y a le concept que t'as le mot hacker qui existe, qui est un pirate informatique qui va faire du bidouillage pour sa curiosité. T'as aussi les script kiddies, qui sont des personnes qui utilisent des scripts déjà faits par des personnes...
Ah, OK. Puis lui, ça serait plus un gars qui avait utilisé des scripts déjà faits.
Lui, utilisait vraiment... des choses déjà faites. Puis t'as aussi les crackers... qui est mal utilisé dans les médias, si on peut dire, qui un cracker est un pirate informatique, mais qui va faire du piratage à mauvais escient, donc il va aller briser des sites web, voler des cartes de crédit, etc.
Et dans le cas de Mafia Boy, c'était un cracker dans le fond, parce que
ben, lui, il était...
finalement, c'est qu'il y a
Il a fait tomber des sites web,
dont Yahoo, Amazon.com, eBay, CNN, quand même des gros noms.
À partir de scripts qu'il avait trouvé sur Internet, que oui, il avait la connaissance pour les utiliser, mais qu'il n'avait pas vraiment construit à 100% par lui-même.
Et lui, il avait dit, sur le plateau, tout le monde en parle, il avait dit que c'était facile de faire ça, puis il était surpris qu'il n'y avait pas plus de gens qui l'avaient fait.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement?
Personnellement, moi, j'étais capable de le faire, mais j'ai été... Je sais pas si on peut dire intelligent, mais je veux dire, pourquoi j'aurais fait ça? C'est sûr que je m'en serais ramassé avec la GRC aux fesses c'est assez ça. Rapide, là.
Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que Mafia Boy a utilisé, c'est ce qu'on appelle des dénis de service ou dénis de service distribués. À partir de là, tu fais rien comme tel. C'est une armée de robots ou de machines qui vont attaquer et surcharger les circuits. Aujourd'hui, les dénis de service sont principalement causés par ce qu'on appelle les botnets. Les botnets, on peut en louer un pour, mettons, 24 heures, ça va coûter 100$. Même ma grand-mère pourrait descendre un site web parce que si elle peut débourser 100$, ben elle va être capable de le faire. Fait que c'est plus une question nécessairement de talent, de capacité ou de skills, mais c'est une question de savoir quoi utiliser, comment, puis de le faire, tout simplement.
Pour revenir à la fin de semaine prochaine, quand on parle des concours en fin de soirée puis tout ça, est-ce que, par exemple, moi je suis intéressé, là, est-ce qu'il faut que j'amène mon portable ou il va y avoir des postes informatiques disponibles pour les gens?
Ben, on fournit le réseau. D'accord. On fournit toute l'infrastructure, les serveurs, les machines qui doivent être attaquées. Puis c'est bring your own box, fait que vous amenez vos propres boîtes, vos laptops, vos tours, ce que ça vous prend avec vos outils. Puis à partir de là, on vous donne accès au réseau pour attaquer.
Par exemple, il faut s'inscrire pour le concours. Ouais. Les places sont limitées dues à l'infrastructure justement qu'on a. Présentement, on a quelques équipes d'inscrits, il reste de la place. Ça vous intéresse, même si vous n'êtes pas des pros là-dedans, que vous ne travaillez pas là-dedans, mais que vous voulez apprendre, je veux dire, il va y avoir du monde qui sont là anyway pour vous le montrer. C'est la place pour faire.
Donc, on a le site web du Hackfest qui est?
C'est le www.hackfest.ca.
D'accord. Et est-ce qu'il y a un prix d'entrée pour y aller?
Oui, dépendamment si vous faites une préinscription sur le site web là, l'admission générale est de 20$. Ça va être pour ceux qui veulent pas le faire parce que bon, faut s'entendre, c'est pas tout le monde qui veut nécessairement laisser des traces quand il va venir parce qu'il y en a qui vont venir attaquer. C'est sûr qu'il y en a qui veulent rester anonymes. On comprend le pourquoi. Fait qu'à ce moment-là, c'est possible de s'inscrire en argent cash le jour de l'événement le matin là, ça va être 30$ cash puis on laisse pas de traces.
D'accord. Alors on vous rappelle que la Hackfest ce sera samedi le 7 novembre prochain à l'hôtel Universel de Québec. Alors, merci beaucoup d'être passé à Puissance Maximale, messieurs. On vous souhaite un super bel événement.
Merci beaucoup.
Merci Michel, merci Patrick. Alors maintenant, on va écouter une pièce musicale. Ça va être... on va aller voir ça. Steve de Saint-Bruno, un autre artiste de Québec, qui va faire un bon substitut de repas. Vous êtes à Puissance Maximale.
C'est ça de la glucosamine, c'est tout plein de vitamines et surtout de protéines. Ça combat la scarlatine, c'est l'officielle grignotine de ceux qui travaillent des mines. Un bon substitut de repas, c'est semblable au saucisson. Ça procure des sensations et des heures de digestion synthétique de fabrication multiple. Saveur de pigeon bien emballé, grosse production. Un bon substitut de repas, moi j'en veux pas. Qui pousse sa terre, subissant des normes sévères, saisissant les rayons solaires, que mon estomac le digère, remplir des graines d'une chaudière, dans un respect humanitaire, pour mes besoins alimentaires, semer un rang de crucifère, un bon substitut de repas. Un bon substitut de repas, moi j'en veux pas.
Jean-Jean aussi écoute Puissance Maximale.
Et c'est maintenant l'heure de ce fameux tirage que vous attendez avec impatience.
Oui, ben disons, c'est, qu'est-ce que c'est ce tirage-là?
C'est le concours gagner une épée Calimacil. Ouais. Alors, ce qu'il fallait faire, c'était de se procurer l'offensine de Puissance Maximale. Et on devait s'inscrire tout simplement et envoyer le tout.
Pouvoir remplir comme ça. Et puis, c'est le prix, finalement, c'est offert par Coliseum Concept.
Oui.
Et puis, justement, là, ça risque de pas d'être une épée. Ça va être probablement plus une arbalète. Mais bon, ça reste une arme de grandeur nature, alors c'est toujours important.
Super intéressant, alors ça sera bientôt le tirage, roulement de tambour.
Donc Vincent arrête de mélanger dans la boîte.
Et oui, cette fameuse boîte métallique qui permettra justement d'avoir un gagnant. Et c'est fait. Nous avons un gagnant, je vais cacher le numéro de téléphone pour pas qu'on le voit. Donc, notre gagnant de l'épée, ou en fin de compte de l'arbalète, c'est Philippe Plamondon.
Philippe Plamondon.
Philippe Plamondon, donc, qu'on remercie d'avoir participé au concours. C'est notre gagnant. Et on vous rappelle également que, ben, pour la prochaine demi-heure, on était là depuis une heure, mais, ben, depuis une demi-heure. Mais pour la prochaine demi-heure, si vous voulez communiquer avec François en direct de Facebook, parce que François est toujours en direct sur Facebook lors de l'émission, bien, vous n'avez qu'à devenir son ami sur Facebook en allant chercher François G. Couillard, avec, vous savez comment ça fonctionne pour le moteur de recherche de personnes sur Facebook. Et vous pouvez lui envoyer ses commentaires. Commentaires qu'on reçoit assez souvent, nous, par email de notre côté. Parce que vous visitez notre site internet, www.puissancemaximale.com, sur lequel vous avez des nouvelles, sur lequel vous avez nos adresses dans les contacts, des adresses courriels pour nous contacter. Et sur lequel également vous pouvez réécouter nos émissions de Puissance Maximale. Alors, le concours, on appelle, c'est Philippe Plamondon qui a gagné.
Félicitations, Philippe. On va t'appeler bientôt pour te remettre le prix. Et puis, ben, on va écouter une autre pièce musicale. Ça va être celle de notre ami français Yannick Capmarty de Musax.info. C'est toujours de la musique de jeux vidéo. Et il trippe bien gros là-dessus. Il va présenter lui-même sa pièce. Vous êtes à Puissance Maximale.
Castlevania Symphony of the Night est très vaste. Et les nombreux objets et armes que le joueur pourra trouver donnent au jeu une très longue durée de vie.
Je suis Patrice Desilets, directeur créatif d'Assassin's Creed, et vous écoutez Puissance Maximale.
Le centre de recherche du NT2 situé à l'UQAM a pour mission de promouvoir l'étude de nouvelles formes d'œuvres hypermédiatiques. Et ça inclut entre autres les phénomènes Internet ou les jeux vidéo. Et c'est pour ça qu'on a le plaisir et l'honneur de recevoir le chercheur Gabriel Tremblay-Gaudette. Bonjour.
Salut.
Donc aujourd'hui, tu viens de parler de webcomics.
Effectivement. En fait, la première chose qu'il faudrait mentionner à propos des webcomics, c'est que ça a été le premier art qui a été diffusé sur Internet. En effet, en 1992, un certain Hans Bjørndal, je suis convaincu que c'est pas comme ça que ça se prononce dans les faits, mais c'est mon interprétation personnelle de son nom, a commencé à scanner les images qu'il mettait dans son journal étudiant et les a diffusées sur le réseau Usenet. Donc, à l'époque, il y a environ 7 personnes, dont 6 ingénieurs de la NASA, qui lisaient ces bandes dessinées. Mais quand même, donc, les webcomics ont été présents dès le début d'Internet. Et ce qu'il faut retenir de ça, surtout, c'est que quand Internet a commencé, les gens qui avaient des pages web, c'est des gens qui étaient très versants en informatique, et beaucoup d'entre eux, en fait, étaient également des gamers. Ce qui fait en sorte que quand la bande dessinée sur le web a commencé à être plus populaire, ou du moins qu'il y a eu des séries récurrentes, la plupart d'entre elles parlaient beaucoup, ou même exclusivement, de jeux vidéo.
À cette époque-là, c'était vers quelle année environ?
Les premières séries, c'était plus vers la fin des années 90. La toute première dont j'ai parlé, c'est en 92, mais ça parlait pas vraiment, ça parlait plus de vie étudiante.
Et quand on parle de séries qui parlaient de jeux vidéo, est-ce que c'était des séries qui représentaient des jeux vidéo connus, ou c'était des séries dans lesquelles on avait des personnages qui jouaient à des jeux vidéo, ou...
Il y a un peu des deux, en fait. Les séries les plus connues, en fait, en ce moment, il y en a une qui s'appelle Controlled Alt Delete, donc du nom de la commande qu'on utilise quand notre ordinateur plante. Et les personnages principaux dans cette série-là sont donc deux gars gamers qui sont un petit peu et qui font pas grand-chose dans leur vie à part jouer. Puis là, évidemment, au fil des ans, ils ont commencé à avoir non seulement là, des jobs, des commerces, des femmes et enfants. L'autre, c'est Penny Arcade, qui est quand même probablement la plus connue. Penny Arcade, qui est d'ailleurs devenu un empire commercial où ils ont produit non seulement des bandes dessinées, mais des recueils, des t-shirts, des séries animées, et même un jeu vidéo, un RPG, qui est d'ailleurs pas très bon. Et l'autre, c'est plus des parodies de jeux vidéo. On en a une, par exemple, qui est Neglected Mario Character, où c'est des histoires fictives qui se déroulent dans l'univers de Mario.
Avec des personnages fictifs qui auraient pu être dans l'univers de Mario.
Oui. Il y en a même une. Il y en a une qui s'appelle... je ne me souviens pas du nom. Dueling Analogues. Qui, donc, ça, c'est vraiment une série de comics qui parle en général de l'univers des jeux vidéo, qui présente de temps en temps des comics qui sont des personnages de Mega Man qui n'ont jamais existé. Donc Hangover Man qui demande à Mega Man de pas tirer trop fort, ou Geriatric Man qui est un vieux monsieur qui reproche à Mega Man de lui manquer de respect.
Puis ça, Gabriel, là, ces webcomics-là que tu nous parles, c'est les premiers qui sont apparus, parce que maintenant il y en a beaucoup là.
Ouais, en fait, maintenant il y en a énormément, comme c'est très facile de faire un webcomic. Une des choses, en fait, que créer c'était une belle trouvaille, mais qui est même devenue un peu comme une invasion. C'est ce qu'on appelle des sprite comics. C'est le fait de prendre des images à partir même du jeu et de les reproduire afin de faire des comic strips. Il y a, par exemple, Bob and George, qui était très connu. En fait, Bob and George, initialement, c'était une série dessinée, mais à partir d'un certain moment, l'auteur a décidé qu'il était très mauvais dessinateur, donc il a présenté un strip où il y avait Megaman qui disait « Bonjour, je suis Megaman, Bob and George ne viendra pas cette semaine, donc attendez un peu. » Et il s'est rendu compte que c'était beaucoup plus facile de prendre des personnages de Megaman que de dessiner lui-même. Donc, il s'est mis à exploiter tous les personnages de l'univers pour créer une série qui a duré, je pense, quelque chose comme 7 ans. Fait que là, puis ce qui est génial, en fait, quand on utilise ce principe-là, c'est qu'on peut prendre des personnages de toutes les incarnations, tous les jeux de Mega Man, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup. On peut tous les mélanger dans la même bande dessinée.
Et je pense, Gabriel, que c'est pas non seulement plus facile d'utiliser les sprites pour dessiner, pour faire des histoires, des webcomics, mais en plus, je pense que ça a plus de succès parce que les gens, ils aiment ça voir les vrais personnages en pixels en train de parler.
Ben, c'est sûr, par exemple, ma série préférée, probablement, qui s'appelle 8-Bit Theater, prend des personnages de Final Fantasy, mais des premiers, en fait. Là, on voit vraiment les pixels en gros. Et comme ayant beaucoup joué à Final Fantasy quand j'étais plus jeune, maintenant, j'essaye de pas trop y jouer parce que ça mettrait en péril mes études au grand complet. C'est fun quand même parce qu'on reconnaît tout de suite les personnages. Ça, un truc d'ailleurs qui est assez intéressant, c'est voir à quel point les jeux vidéo maintenant occupent une part importante dans la culture populaire. Parce que non seulement des séries de jeux qui existent depuis longtemps, comme par exemple Mario, Final Fantasy ou Metal Gear, ont des univers narratifs assez construits puis des personnages à la personnalité assez élaborée pour qu'on puisse les parodier.
Quand même assez, oui, c'est quand même intéressant. Puis de votre côté, ONT2, parce que là, tu nous en parles, j'imagine que c'est un sujet qui est étudié.
En fait, les webcomics, j'en fais beaucoup la promotion. L'étude des jeux vidéo, en général, ça commence, c'est qu'en fait, c'est tellement rendu un phénomène culturel important que c'est intégré autant dans les études cinématographiques que dans la littérature, par exemple. Parce que, je vous donne un exemple, dans Dueling Analog, il y a beaucoup de jeux sur les personnages des jeux vidéo. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'est des personnages qui occupent tellement une place importante dans l'imaginaire qu'ils remplacent dans les parodies. Il y a 20 ans, on aurait pris des personnages de films, des super-héros, des personnages de séries de télévision. Mais maintenant, il y a des séries de films, ça existe un petit peu moins. Des séries de télévision qui restent assez longtemps pour marquer l'imaginaire, c'est plus rare aussi. Tandis que des jeux vidéo, n'importe qui, même s'il est plus, même quelqu'un qui n'a pas de chemin depuis 10 ans, si on lui présente Mario, on lui présente Zelda, on lui présente des personnages de Final Fantasy, il va tout de suite les reconnaître et va associer énormément de choses qui viennent avec.
C'est ça, dans le NT2, vous étudiez dans le fond l'impact que les jeux vidéo ou les arts hypermédiatiques, comme vous les appelez, dans la culture populaire, dans le fond.
Oui, ben en fait, c'est que au NT2, l'objet d'étude est plus large, c'est l'art sur Internet. Mais dans le cas de la bande dessinée, des webcomics, c'est frappant à quel point les jeux vidéo sont une influence constante. Les webcomics sont plus traditionnels dans leur approche. Ils vont moins utiliser des ressources technologiques comme d'autres bandes dessinées en ligne qui vont utiliser de l'animation, des trames sonores, de l'hypertexte, toutes sortes de... des fois des choses qui relèvent un peu du gadget. Mais ce qui fait l'intérêt des webcomics, c'est voir comment est-ce qu'ils prennent des éléments de la culture populaire qui sont très, très élaborés et qu'ils le déconstruisent, le transforment ou en font même des satires très intéressantes.
Absolument. Puis, en ce moment, si tu aurais des webcomics comme ça à conseiller aux gens?
Moi, sérieusement, je vous dirais commencer par les meilleurs. Parce que, comme j'ai mentionné, c'est assez facile de faire un webcomic. On peut dessiner très mal et le mettre en ligne. On peut prendre des images de jeux vidéo et les mettre en ligne. Donc, 8-Bit Theater, c'est vraiment, vraiment une référence. Si vous allez sur le site, comme le webcomic existe depuis 2000, vous avez accès à 9 ans de création, donc environ, ce serait l'équivalent d'environ 25 albums de bande dessinée traditionnelle. Dueling Analog, c'est très, très bon. Ben, il est un petit peu plus osé, disons, là, parce qu'il y a beaucoup plus de références violentes et sexuelles, mais je pense qu'on est capable d'en prendre de toute façon si on joue à GTA. Et c'est bien parce que ça joue beaucoup sur l'actualité des jeux vidéo. Comme il y en a, j'ai lu un gag récemment sur le fait que la PS3 Slim est plus lente que son prédécesseur, donc c'est la Wii qui discute avec la PS3 Slim. Fait que si on est gamer, qu'on connaît les références, on est un peu récompensé de pouvoir rire de ces blagues-là.
C'est ça, les webcomics, c'est dédié avant tout aux joueurs, quoique finalement, c'est pas uniquement à eux, mais disons que c'est dans l'univers des gamers.
Et c'est le fun parce que ça nous permet en fait de toute la connaissance qu'on a. On peut pas parler nécessairement avec nos parents ou nos amis qui jouent pas aux jeux vidéo, ces choses-là, mais en lisant ces webcomics-là, on a comme des gens qui partagent nos centres d'intérêt avec qui, dans le fond, qui font des blagues que nous, on est capable de rire, ou nous-mêmes, on fait des blagues qu'on voudrait faire, mais que personne rirait, et là, c'est des gens qui les font pour nous.
C'est ça, on fait partie de la gang, hein, c'est la fierté geek. Et sinon, Gabriel Tremblay-Gaudette, là, donc peut-être pour rappeler vite là, les webcomics que tu as parlé, Penny Arcade, Control Alt Delete, 8-Bit Theater et Dueling Analog.
Exactement.
Tu voulais finir en parlant d'un bouquin, d'un lancement d'un bouquin?
Oui, en fait, bon, juste en mentionner peut-être un dernier webcomic qui est La vie en geek. Ça s'écrit en un mot, mais les deux E de geek, c'est des trois. Et ça, c'est des Québécois qui le font, donc ça vise de manière plus générale l'existence des geeks. C'est assez drôle, c'est bien écrit. Ils mettent pas leur site à jour de manière très régulière, comme c'est le cas pour d'autres webcomics, mais c'est vraiment à découvrir. Là, je viens d'en lire quelques-uns qui m'ont vraiment fait rire. Et dans un autre ordre d'idée, comme j'ai mentionné, les jeux vidéo commencent à être étudiés, à être pris au sérieux dans le monde universitaire. Et il y a un bouquin, en fait, je me rends au lancement dès que j'ai raccroché, qui est publié par Bernard Perron et Ludiciné, qui est un autre centre de recherche qui s'intéresse aux jeux vidéo en tant que forme de cinéma interactif. Et c'est un bouquin qui parle des jeux vidéo d'horreur. Donc le titre en anglais, c'est Horror Video Game Essays on the Fusion of Fear and Play. Donc c'est les chercheurs du groupe de recherche Ludiciné qui ont fait des différents textes qui abordent de manière critique les jeux vidéo d'horreur. Moi, pour les avoir vus en communication, je trouve qu'ils tiennent des propos très intéressants au niveau universitaire et intellectuel, mais sont en même temps très caustiques et sont capables de faire preuve d'humour. Et ça peut être très intéressant, comme on connaît déjà les jeux, d'aller lire ce qui se fait comme recherche.
Peut-être qu'on les recevra la semaine prochaine en entrevue, justement, pour parler du bouquin. Ça pourrait nous intéresser, ça. Mais je te remercie beaucoup, Gabriel. Puis on se dit environ dans un mois pour plus d'informations sur les recherches du NT2.
Excellent.
Donc, c'était Gabriel Tremblay-Gaudette. Et donc, Vincent, je pense qu'on est dû pour écouter une petite pièce musicale.
Allons-y donc, oui.
Pour gérer tout ce contenu universitaire qui parlait des webcomics. Est-ce que tu en consommes toi-même des webcomics?
Eh non, je n'en consomme pas du tout.
Moi, je suis souvent le Perry Bible Fellowship, qui est en fait, c'est pas nécessairement dédié au monde des gamers, mais ça reste quand même un très bon webcomic. Alors, on va écouter... Ça va être une pièce, et tabarnak. Est-ce que je vais oser jouer cette pièce-là?
Va-t-il le faire?
J'ai trouvé ça aujourd'hui. C'est une pièce qui s'appelle Vive Pac-Man. C'est de William Lemergy. Ça se peut que j'aie un peu honte et que je sois rouge après être revenu de prochain micro. Mais bon, quand même, excusez-la. Vous êtes à puissance maximale.
Jaune qu'un citron, c'est Pac-Man. Gentil petit bonhomme, poursuivi par les fantômes, c'est Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Rond comme un soleil, il fait des bonds dans le ciel, c'est du Pac-Man. En quelques secondes, il peut faire le tour du monde, c'est du Pac-Man. Il est toujours de bonne humeur. Il a raison, ça porte bonheur. Faut faire attention, car voilà les boutons. Vite une plaque d'homme, il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man. Inky, Pinky, Clyde et Mademoiselle Sour sont des fantômes pas gentils du tout. Ils ont pour maître le méchant grippin. Mais Pac-Man s'en sort toujours, toujours très bien. Rond comme un ballon, il nous joue qu'un citron, c'est du Pac-Man. Il ne craint personne, pas même les méchants fantômes, c'est du Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Plus fort qu'un géant, même s'il n'est pas très grand, c'est du Pac-Man. Il est courageux et il n'a pas froid aux yeux, c'est du Pac-Man. Il est toujours de bonne humeur. Il a raison, ça porte bonheur. Il est en danger, mais il est toujours prêt. Vite une plaque d'homme, il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man. Rond comme un ballon, il plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Gentil petit bonhomme, poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Rond comme un soleil, il fait des bonds dans le ciel, c'est du Pac-Man. En quelques secondes, il peut faire le tour du monde, c'est du Pac-Man. Il est toujours de bonne humeur. Il a raison, ça porte bonheur. Faut faire attention, car voilà les gloutons. Vite une pâte d'homme, il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man.
Bună ziua, mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mind și îmi place puissance maximale.
Alors, le week-end prochain, soit les 7 et 8 novembre, aura lieu à Montréal la Fiesta Ludique, cet événement annuel de Philosophia qui en sera sa deuxième édition. Le temps froid et maussade arrive, quoi de mieux que d'aller passer une ou deux journées au collège à Hunsic pour jouer à des jeux qu'on aime ou en découvrir de nouveaux. Alors, pour en parler, nous avons au bout du fil Martin Bouchard de Philosophia. Bonne fin d'après-midi et bienvenue à Puissance Maximale.
Oui, allô, bonsoir.
Martin, tout d'abord, j'ai lu cette année sur votre site Internet que vous aviez doublé la surface de jeu, donc deux salles sont disponibles. Peux-tu nous dire, nous en parler un peu plus?
Bon, cette année, donc, on a décidé de séparer une zone stratégie de la zone party, famille, enfants. Ce qu'on s'attend aussi, c'est d'avoir plus de visiteurs cette année. Donc, on a rempli l'année passée là, assez facilement la salle qu'on avait. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que on allait avoir besoin de plus d'espace pour justement les jeunes enfants, des jeux qui prennent la place, comme des jeux géants, par exemple. Puis des animations là, qu'on va tout mettre dans la salle, justement, la salle party.
D'accord. Donc, en fait, quand une salle pour les jeux, on a besoin de plus de concentration, les jeux stratégiques, puis une salle où on aura peut-être des jeux un petit peu plus bruyants.
Ben, le commentaire, ça a été passé l'année passée par les gros joueurs de jeux de stratégie, comme quoi c'était peut-être un peu bruyant, là, cette salle-là. Donc, maintenant, tout ce qui est jeu, justement, stratégie, où est-ce qu'on a besoin de se concentrer, ça va être plus calme. Et cette salle-là va être justement plus tranquille.
Ben, ça a du sens. L'an dernier, on avait des participants de renom, comme Friedemann Friese, M. Fall, Cédric Caumont, qui sont venus passer quelques jours à Montréal pour l'événement. Qui sont les têtes d'affiche cette année?
Cette année, on a de chez Histary Cyril Demag, qui va être là pour présenter son nouveau jeu à Syria. Donc, c'est un lancement, c'est comme une avant-première. Si tu veux, le jeu n'est pas encore disponible en boutique. Il va être disponible au Québec pour la première fois à la Fiesta Ludique. On a aussi, probablement que plusieurs auditeurs le connaissent déjà pour ses capsules, ses boîtes castes, Nicolas Beauzeret, qui est là la fièvre du jeu, Stéphane Dehoux de la fièvre du jeu qui va être là. Puis Nicolas Beauzeret, c'est des soirées terribles. Fait des boîtes castes sur le monde ludique. Il est là dans le Clé Festival. En fait, je l'ai vu à SN la semaine dernière. Puis il fait tous les grands salons et les grands festivals aussi.
Tu viens de mentionner une exclusivité là, qui va sortir en fin de compte à Fiesta Ludique. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont être disponibles?
Il y a plein d'exclusivités qui vont être là. Il y a Cyclades de chez Matago qui sera là. Il y a Nostra City de chez Asgard qui sera là. De chez Philosophia, il y aura le nouveau Megawatt Electro Manager et aussi de nouveaux Carcassonne jeux de cartes qui seront là. Ensuite, de chez Repos Production, il y aura l'extension pour Ghost Stories. Chez Cocktail Games, il y aura il y aura Captain Pirate aussi. Ensuite, Asmodée, on présentera Identique, un jeu de dessin à tester. Donc, toute une panoplie là, d'exclusivité, de jeux qui viennent tout juste de sortir, qu'on fait venir en fait par avion. On quitte le salon des scènes, on book justement le transport par avion, puis arrive juste à temps, là, il va arriver demain ou mercredi.
Et en plus de participer, de jouer de façon amicale avec d'autres joueurs, est-ce qu'il y aura, par exemple, des tournois?
Il y a des tournois. Il y a un tournoi Dominion. Il y aura un tournoi aussi. Il y a un grand tournoi. Sûrement que vous avez suivi l'actualité là, concernant le grand tournoi de Aventuriers du Rail. Donc, la finale régionale là, pour le Québec aura lieu à la Fiesta Ludique. Ensuite, il y aura des parties spécial pour Ghost Stories puis Pandémie. En fait, c'est une pandémie extrême. Puis Ghost Stories, ça sera avec l'extension. Donc, les joueurs pourront s'inscrire et essayer de battre le jeu à ces jeux coopératifs-là.
Pandémie, un jeu qui a connu beaucoup de succès. Là, on le sait, à cause de tous les virus, les grippes, les machins. Ça a beaucoup de succès.
Oui, c'est ça, on a fait le salon Le Monde du jeu en France au mois de septembre, puis on a pu constater encore une fois là, comment l'intérêt est très fort là, autour de ce jeu, là, c'est incroyable.
Et participer à Fiesta Ludique en termes de participants, de visiteurs, c'est également supporter certaines causes. L'année passée, vous avez supporté la cause de la fondation de l'hôpital Charles Bruno, pour laquelle vous aviez versé une somme de 1 000 $. Est-ce que cette année, vous reprenez le flambeau pour une autre organisation?
Exactement. Cette année, ce qu'on fait, on supporte la cause de la Société pour les enfants handicapés du Québec. C'est la même cause que Marc-André Coallier supporte.
D'accord.
Partie des profits va être versée justement à cette association-là. On trouve ça important de justement, c'est pas un, comme je le dis à peu près sur toutes les tribunes, là, c'est pas pour nous, c'est un événement qui est là pour faire la promotion des jeux de société et pas un événement, pas une source de profit. Donc, ce qu'on veut, c'est mettre les jeux de l'avant et les gens peuvent venir les essayer, les ramener chez eux, les faire connaître après ça à leur cercle de connaissances, les amis, les familles, etc. Puis, en mettant plus de jeux comme ça dans les familles, ben ce qu'on pense, c'est que petit peu à petit peu, ben, les jeux prennent de plus en plus d'ampleur dans les familles québécoises.
Bien, merci beaucoup, Martin Bouchard, d'avoir participé à l'émission. Donc, les 7 et 8 novembre, en fin de semaine, au Collège Antic, ce sera la Fiesta Ludique et on vous souhaite un énorme succès.
Je vais me rappeler que c'est une entrée gratuite pour tout le monde.
Excellent.
Et puis Vincent, toi-même, tu vas être là.
Oui.
Tu vas pouvoir en parler plus en détail avec Martin et revenir avec des choses là-dessus. Je te remercie, tout Martin, d'avoir appelé. Alors voilà, c'est la fin de l'émission.
Déjà la fin de l'émission, le temps de remercier tous ceux qui ont participé à l'émission justement d'aujourd'hui. Martin Bouchard avec qui on vient de parler, Michel Custin et Patrick Mathieu, Gabriel Tremblay-Godette avec qui on a parlé également. Merci à toi François d'avoir, comme à l'habitude, tenu la technique de cette émission.
Merci à toi Vincent, l'anglois toujours aussi déchaîné.
Comme d'habitude.
Et puis sinon, ben, je pense qu'il y a le mot de la fin.
Eh oui, c'est toujours la même chose. On vous souhaite une bonne semaine.
I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement, bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard.